Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Voici depuis plusieurs mois maintenant que nous vous proposons de partager avec nous cette œuvre d'une immense richesse qui est celle des lettres des pères du désert, les premiers pères de l'Église, qui vécurent du 3e siècle à nos jours, plus spécialement au Moyen-Orient et en Russie. Aujourd'hui, poursuivons avec Jean Cassien, qui est plus particulièrement orienté sur l'expérience du combat spirituel, celui qui nous permet de quitter le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Notre entretien se poursuit aujourd'hui avec Jean Cassien à propos de l'amitié. D'une part, les ravages de la colère qui fragilisent une amitié. Et d'autre part, que veut dire cette phrase « Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui encore l'autre ». De même qu'il ne faut rien mettre avant la charité, à l'opposé, il ne faut rien mettre après la fureur et la colère. On doit tout sacrifier, quelque utile, voire nécessaire qu'il paraisse, pour éviter le trouble de cette passion. Et tout embrasser, tout supporter, même ce qui passe pour adversité, afin de garder inviolable la tranquillité de la direction et de la paix. Bien convaincu qu'il n'est rien de plus pernicieux que la colère et la tristesse, rien de plus profitable que la charité. Entre les frères charnels, encore et faibles, le démon a tout fait de semer la colère et la désunion à propos de choses viles et terrestres. Mais pour les spirituels, c'est par la diversité de sentiments qu'il fait naître chez eux la discorde. Telle est sans aucun doute la fréquente origine des disputes et des querelles que l'apôtre condamne. De celle-ci, l'ennemi, envieux et méchant, prend ensuite occasion, afin de pousser à la rupture, des frères qui jusque-là n'avaient qu'une âme. Car elle est bien vraie la parole du sage Salomon, « La dispute suscite la haine. » Mais pour tous ceux qui ne disputent point, l'amitié les protège. Quel abus encore de nous croire quelquefois bien patients parce que nous dédaignons de répondre aux provocations qui nous sont faites. Cependant que par un silence amer, un mouvement, un geste de moquerie, nous tournons en dérision nos frères tout émus et les excitons à la colère par ce masque impassible, plus que ne l'aurait fait de furieuses invectives. Nous estimons n'être point coupables devant Dieu parce que nulle parole n'est sortie de nos lèvres qui nous puisse flétrir ou condamner au jugement des hommes, comme si aux yeux de Dieu ce fussent les paroles seulement qui comptent pour faute et non pas surtout la volonté, ou qu'il n'y eût de crime que dans l'œuvre du péché et non pas aussi dans le vœu et le dessein. Comme s'il avait uniquement égard, lorsqu'il nous juge, à ce que nous avons fait, et point du tout à ce que nous nous sommes proposés de faire. Ce n'est pas seulement la nature de l'émotion provoquée qui fait la culpabilité, mais aussi le propos de celui qui irrite. Aussi notre juge, dans son examen impartial, s'enquerra moins de la manière dont la querelle est née que par la faute de qui elle s'est allumée. Ce qu'il faut considérer, c'est le péché lui-même et non pas le développement du fait matériel. Qu'importe que l'on tue soi-même son frère par l'épée ou qu'on le pousse à la mort par quelque fourberie. Ruse ou crime, n'est-il pas constant qu'il meure par vous ? Comme s'il suffisait de ne point jeter de sa propre main l'aveugle au précipice. Celui qui, le pouvant, néglige de le retenir, lorsqu'il le voit penché déjà et suspendu sur l'abîme, n'est-il pas responsable pareillement de sa mort ? Ou bien sera-t-on criminel seulement à la condition d'étrangler soi-même son prochain, et point lorsqu'on prépare la corde, ou qu'on la pupasse, ou que l'on néglige du moins de la lui ôter, quoi qu'on le puisse. De même, rien ne sert de se taire si nous nous commandons le silence dans le dessein d'obtenir par son moyen ce qu'aurait fait l'injure. Si nous y joignons de certains gestes hypocrites qui jetteront dans une colère plus véhémente celui qu'il eût fallu guérir et qui, pour comble, nous vaudrons les louanges de sa ruine et de sa perdition. Comme si l'on ne devenait pas plus criminel encore, par le fait même que l'on veut s'acquérir de la gloire de la perte d'un frère. Mais aussi bien, un tel silence sera-t-il mauvais à tous deux ? Comme il augmente la tristesse au cœur du prochain, il ne permet pas qu'elle disparaisse d'une autre. C'est à ceux qui agissent de la sorte que s'adresse bien proprement la malédiction du prophète « Malheur à qui mêle son fiel dans le breuvage qu'il sert à son ami et qui l'enivre pour voir sa nudité. Il sert à m'assasier d'opprobre au lieu de gloire. Et voici ce qu'un autre a dit de leur pareil. Le frère ne pense qu'à supplanter son frère. Et l'ami use de tromperie contre son ami. L'homme se rira de son frère et ils ne diront point la vérité. Car ils ont tendu leur langue comme un arc afin de lancer le mensonge et non la vérité. Souvent, une feinte patience excite plus impétueusement à la colère que ne feraient des paroles. Un silence méchant passe les plus violentes injures. Et l'on supporte plus aisément les blessures d'un ennemi déclaré que les fausses douceurs d'un moqueur. De tels gens, le prophète dit proprement, « Ses discours sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des javelots. » Et ailleurs, « Les paroles des hommes rusés sont douces, mais elles pénètrent jusqu'au fond des entrailles. » On peut encore heureusement leur appliquer cet oracle. Il a dans la bouche des paroles de paix pour son ami, et en secret, il lui tend des embûches. Mais c'est le trompeur qui est trompé, car celui qui tend le filet devant son ami s'en empêtre soi-même. Et celui qui creuse une fosse pour son prochain y tombera. Une multitude énorme était venue pour saisir le Seigneur avec des épées et des bâtons. Or personne ne fut plus cruellement parricide contre l'auteur de notre vie que celui qui, prévenant tous les autres, afin de lui offrir en le saluant un hypocrite hommage, lui donna le baiser d'une charité perfide. Et le Seigneur lui dit, « Judas, tu livres le Fils de l'homme par un baiser, c'est-à-dire pour couvrir l'amertume de la persécution et de la haine, tu empruntes le signe fait pour exprimer la douceur du véritable amour. » Mais il exhale plus ouvertement et avec plus de véhémence la violence de sa douleur par la bouche du prophète. Si c'était un ennemi qui m'eût outragé, je l'aurais supporté. Et si c'était celui qui m'avait en haine, qui se fût élevé contre moi dans ses paroles, je me serais caché de lui. Mais toi, tu n'avais qu'une âme avec moi. Tu étais mon guide et mon ami. Tu partageais avec moi une douce nourriture. Nous allions de concert dans la maison de Dieu. Le frère Joseph intervient. Il ne faut pas considérer seulement l'acte matériel, mais aussi la disposition d'esprit et l'intention de celui qui agit. Pesez bien dans l'intime de votre cœur les sentiments qui animent les actions humaines. Examinez de quel mouvement elles procèdent. Et vous verrez que la vertu de patience et de douceur ne se peut accomplir en aucune façon par un esprit tout contraire, à savoir par l'esprit d'impatience et de fureur. Notre Seigneur et Sauveur a voulu nous former à une vertu profonde qui ne fut pas seulement sur nos lèvres, mais demeura au sanctuaire le plus intime de notre âme. Dans cette formule qu'il nous donne de la perfection évangélique, « Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui encore l'autre », il faut certainement sous-entendre à la fin le mot « droite ». Et cette autre joue droite ne peut s'entendre, s'il m'est permis de parler ainsi, que de la face de l'homme intérieur. Le Seigneur désire donc extirper complètement des plus profondes retraites de l'âme le foyer de la colère. Il veut que l'homme extérieur, se voyant frappé sur la joue droite par un injuste agresseur, il veut que votre homme intérieur présente aussi à frapper sa joue droite en consentant humblement à l'affront, qu'il prenne part à la souffrance de l'homme extérieur soumettant et abandonnant en quelque sorte son propre corps à l'injure. Car il ne faut pas que l'homme intérieur s'émeuve, même silencieusement, du coup reçu par l'homme extérieur. Vous voyez par là combien ceux dont nous parlons sont éloignés de la perfection évangélique. Elle nous enseigne à garder la patience, non en parole, mais par la tranquillité intime du cœur. Et comme elle prescrit que nous la conservions dans les rencontres fâcheuses, ce n'est rien encore de nous garder indemnes des émotions violentes de la colère. Nous devons encore, en pliant sous l'injure, contraindre à s'apaiser ceux qui sont émus par leur faute, leur permettre de s'assouvir en nous frappant. Il faut, à force de douceur, triompher de leur emportement. Le bien de la longanimité et de la patience fait qu'on a profité beaucoup plus. C'est en effet le précepte de l'apôtre « Vous qui êtes fort, supportez les faiblesses de ceux qui sont infirmes. » Il dit encore « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Jamais le faible ne supportera le faible, ni le malade ne pourra endurer ou guérir le malade. Mais celui-là peut apporter le remède au faible, qui n'est pas lui-même soumis à la faiblesse. Autrement, on aurait sujet de dire « Médecin, guéris-toi toi-même ». Vous remarquerez encore chez les faibles ce trait de nature. Prompt et facile à l'outrage, à soulever des querelles, ils ne veulent pas être effleurés eux-mêmes par le plus léger soupçon d'injure. Pleins de propos insolents, ils traitent chacun de haut avec une liberté inconsidérée et superbe. Mais d'avoir à supporter ne fût-ce qu'un souffle, un rien, les rend fort mal contents. Si bien qu'il en faut revenir à la maxime des anciens, l'amitié ne saurait durer jusqu'à la fin, stable et sans rupture, qu'entre des hommes d'égale vertu et de même propos. Autrement, il est fatal qu'elle se rompe un jour ou l'autre, quelque soin que le fort prenne de la conserver. Et maintenant, je déclare à ceux qui désirent garder inviolablement les sentiments de l'amitié, voici la loi qu'ils doivent, selon moi, observer avant tout. D'abord, quelles que soient les injures dont on le charge, le moine gardera la paix, je ne dis pas seulement sur ses lèvres, mais dans le fond de son cœur. S'il se sent troublé le moins du monde, qu'il se contienne dans un absolu silence et suive exactement ce que dit le psalmiste. Je me suis troublé et je n'ai point parlé. J'ai dit, je garderai mes voix de crainte de pécher par ma langue. J'ai mis une garde à ma bouche, tandis que le pécheur se tenait en face de moi, et je suis resté muet, et je me suis humilié, et j'ai gardé le silence, même pour les choses bonnes.
Thank you.
la vertu de la patience, une puissance phénoménale. La vraie patience et tranquillité ne s'acquièrent et ne se gardent que par une profonde humilité de cœur. La vertu qui découle de cette source n'a nul besoin du secours d'une cellule ni du refuge de la solitude. Pourquoi se mettrait-elle en quête d'un appui au dehors quand elle est intérieurement soutenue par l'humilité, sa mère et gardienne? Par ailleurs, si nous avons de l'émotion lorsqu'on nous exerce, il est assuré que les fondements de l'humilité ne sont pas bien affermis en nous. La moindre bourrasque qui survient suffit alors à secouer notre édifice spirituel en grand péril de se ruiner. Mais la patience ne mérite point de louange ni d'admiration à demeurer dans sa tranquillité lorsqu'elle n'a point d'ennemis qui la crible de traits. Ce qui la fait illustre et glorieuse, c'est de rester immobile quand la tempête de la tentation fond sur elle. On pense que l'adversité va l'ébranler et la mettre en déroute. Plutôt épuise-t-elle sa force. Son tranchant s'aiguise de ce qui semblait devoir l'émousser. Nul n'ignore que patience vient de pâtir et soutenir. Il est clair, partant, que celui-là mérite seul d'être dit patient, qui supporte, sans révolte, tous les mauvais traitements qu'on lui inflige. C'est de lui que Salomon fait à bon droit l'éloge. L'homme longanime est riche de prudence, mais le pusillanime est bien insensé. Si vaincu par l'injure, on s'enflamme de colère, il ne faut pas croire que la morsure de l'affront soit cause de ses péchés. Elle ne fait que manifester une faiblesse cachée, et l'on voit ici s'accomplir la parabole de notre Seigneur et Sauveur sur les deux maisons, dont la première était fondée sur le roc et la seconde sur le sable. Les pluies, les torrents, les vents de tempête se ruent également sur l'une et sur l'autre. Cependant, celle qui est fondée sur la solidité du roc ne souffre aucun dommage d'un choc si violent. Au contraire, celle qui est construite sur le sable incertain et mobile s'abîme sans retard. Or, il apparaît clair comme le jour que la cause de sa ruine n'est pas dans les pluies et les torrents qui l'assaillent, mais dans l'imprudence de celui qui l'a bâti sur le sable. La différence d'un pécheur et d'un saint ne vient pas de ce que celui-ci ne serait pas tenté aussi bien que l'autre, mais de ce qui ne se laisse pas vaincre aux assauts les plus violents, tandis que la tentation la plus légère suffit à surmonter le premier. Nous l'avons dit, la force du juste n'aurait point de titre à la louange s'il triomphait sans être tenté. Peut-il y avoir une victoire sans combat contre l'adversaire? Mais heureux l'homme qui supporte la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Ne cherchons pas notre paix en dehors de nous. Ne comptons pas sur la patience d'autrui pour venir en aide aux vices de notre impatience. De même que le règne de Dieu est au-dedans de nous, de même l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Quel familier plus intime que mon propre cœur. Et cependant, personne ne m'est plus ennemi que lui. C'est pourquoi soyons vigilants. Et nos ennemis intérieurs ne pourront plus nous blesser. Les gens de notre maison, cessant de nous combattre, notre âme pacifiée possédera le royaume de Dieu. À bien prendre les choses, un autre homme ne saurait m'atteindre, quelque malice qu'il déploie, si mon cœur inapaisé ne me met en guerre contre moi-même. Suis-je blessé? La faute n'en est pas à l'attaque d'autrui, mais à mon impatience. Ainsi en va-t-il de la nourriture forte et solide, bonne à qui est en santé et pernicieuse aux malades. Elle ne peut faire mal à qui la prend, à moins qu'elle ne trouve dans sa faiblesse la force de nuire. À notre prochain rendez-vous, Jean Cassien évoquera avec nous comment guérir de la colère. Il nous parlera également comment reconnaître qu'un cœur s'est purifié.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.